Eh bien oui, vous ne rêvez pas, c'est un podcast.
Un podcast.
Garde-le.
Un podcast, un podcast de Perdusa, ça fait bien bien longtemps, et c'est pour ça, c'est ce qui explique qu'on est un petit peu rouillé, que je suis un petit peu rouillé en tout cas. Donc on est tous les trois aujourd'hui, c'est-à-dire Blackie.
Bonjour tout le monde.
Tigrou.
Bonjour tout le monde.
Et moi-même GG, réunis pour discuter de séries télé. On a pris comme prétexte les 10 ans de Perdusa pour se relancer dans l'aventure des podcasts. Ouais, si on fait pas de podcast, c'est parce qu'en général...
On se voit pas
et on déteste les podcasts qui se font avec des logiciels genre Skype et tout ça, parce que les voix c'est abominable, la discussion se fait pas de façon fluide. Donc plutôt que ne pas faire de la qualité extraordinaire, on a décidé de ne rien faire du tout. C'est un peu ce qui explique aussi que des fois il n'y a pas beaucoup de reviews sur le site. C'est qu'on attend que d'écrire des choses extraordinaires. Donc toujours est-il que on va parler des séries télé qui ont marqué cette dernière période et qui nous ont conduit à faire notre classement de fin d'année. Classement qui a été un petit peu controversé sur le forum, puisque certaines personnes estimaient que Vampire Diaries, par exemple, n'avait pas sa place sur les plus hautes marches de notre podium. Ça tombe bien, Vampire Diaries, c'est une série qu'on regarde tous les trois. Pour Blackie, c'est une série qui n'est pas encore assez haut placée apparemment. Donc on va vous expliquer pourquoi il vaut mieux. Et pourquoi, tout simplement pourquoi Vampire Diaries, c'est plus intéressant et meilleur que Boardwalk Empire par exemple. C'est parti.
Alors, moi je suis la seule parmi entre nous trois qui a regardé Boardwalk Empire entièrement.
Moi aussi.
Non, tu m'as dit que tu n'avais pas vu la saison 2.
Mais si, j'ai vu la saison 2 en entier.
Bon bah alors j'ai rien dit, mais alors il faudra qu'on en discute. Moi j'avais compris que t'avais vu de la saison 1.
Ah non, j'ai vu toute la saison 2 là, en 3 jours.
Ah d'accord, c'est 3 derniers jours. Ok. Bon bah ce sera un autre sujet plus tard.
Donc Vampire Diaries saison 3, je vous rappelle que c'est une série diffusée sur la CW, que c'est la 3ème saison, ça je crois que je l'ai dit il y a 10 secondes, et que c'est l'histoire de la pauvre Elena qui doit choisir... entre l'amour et les sentiments de deux frères vampires. Il y en a un qui est gentil, il y en a un qui est méchant. Avec un pitch pareil, je comprends quand même qu'il y ait plein de monde qui soit un peu surpris sur le fait qu'on soit aussi enthousiaste à propos de cette série.
Voilà, en même temps, Buffy, c'est une blondinette qui va casser du vampire. Et c'est ça aussi le pitch de départ. Je pense que on a tellement de séries qui ont des pitchs absolument géniaux qui finalement n'aboutissent à rien. D'autres qui partent sur un principe qui sonne complètement idiot, qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de possibilités, il exploite à fond, il crée un univers autour, et c'est ça, Vampire Diaries, finalement. Ils sont partis de pas grand-chose, et ils ont créé vraiment tout un groupe et tout un univers avec ses règles, sa mythologie, qui n'arrête pas d'évoluer, on ne s'ennuie jamais.
Bah, voilà. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'effectivement, c'est la série où on s'ennuie jamais. Et c'est quand même assez appréciable dans une série dont le pitch au départ est assez banal. Et clairement, c'est une série qui a été produite uniquement pour marcher dans la lignée des Twilight, True Blood et compagnie. Et on sent que les scénaristes en fait s'amusent et qu'ils avaient conscience dès le début de ce qui pourrait handicaper leur série. Et ils ont produit finalement quelque chose d'intéressant parce que déjà il y a un rythme assez incroyable dans la série. C'est quand même la série qui avance le plus vite de toutes les séries qui sont à l'antenne à l'heure actuelle. En général, on a à peine le temps d'explorer une possibilité pendant 3 épisodes, que toute l'intrigue est bouleversée, donc on s'ennuie pas. Et c'est aussi une série qui, je trouve, à l'intelligence de ne pas prendre ses personnages pour des débiles. Et en général, c'est plutôt les personnages qui ont une longueur d'avance sur le téléspectateur que le contraire, ce qui est quand même très très rare dans ce type de production. Voilà, donc c'est plutôt agréable de ne pas avoir à trouver l'héroïne débile ou de ne pas deviner 3 épisodes avant quel est le prochain rebondissement. Après, ça reste vraiment une série popcorn pour moi, Vampire Diaries, mais de très bonne qualité et qui en plus a de bons acteurs, ce qui ne fait pas de mal. Voilà. Et il y a quand même des flashbacks assez magnifiques dans la série, où on sent qu'ils ont zéro budget, qu'ils en ont rien à foutre, et ils nous expliquent que en 3000 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des vikings qui vivaient aux États-Unis avec des Africains, et qui faisaient de la magie avec des tresses. C'est quand même assez magique.
C'est justement ce que tu viens de dire, le fait qu'il n'ait pas beaucoup d'argent. Je pense que c'est pour ça aussi que ça marche si bien, et tout le monde le compare en disant oui, ce serait plutôt une série d'HBO qui devrait être en haut de notre liste. Oui, effectivement, HBO a beaucoup plus de moyens, ils ont beaucoup plus d'argent, ils vont avoir des noms énormes comme Steve Buscemi au niveau du casting. Je dis pas, hein, j'aime beaucoup Boardwalk Empire, mais je comparerai pas, c'est pas parce que l'un a une production absolument magnifique, a plus de moyens, qu'ils vont forcément essayer justement d'aller plus loin au niveau des histoires, des scripts. Par exemple, c'est quelque chose qu'on discutait tout, entre nous tout à l'heure, c'est qu'HBO a tendance à mettre beaucoup de nudité gratuitement pour meubler ou pour faire passer des dialogues vraiment un peu pour nous distraire, et puis parce qu'ils le peuvent. Voilà, Vampire Diaries par exemple ne le peut pas, ne peut pas se permettre ce genre de choses, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des costumes absolument incroyables. Donc qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont plutôt essayer de nous raconter des bonnes histoires.
Ouais, c'est là-dessus que ça repose tout le charme de la série, c'est vraiment que le seul véritable moyen qu'ils ont, c'est l'écriture. Donc, et comme c'est réussi, en plus, ça nous ramène 5 ou 10 ans en arrière, où les séries n'avaient pas tant de moyens que ça, et qu'effectivement, ce qui était marquant, 10 ans, et ce qui était marquant, c'était la qualité des scénarios, les jeux toujours inventifs de variations sur le même thème. Et là, dans Vampire Diaries, c'est... En gros, c'est la bonne série d'antan, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un point de vue de l'ambition des thèmes, enfin des thèmes abordés ou quoi que ce soit, ça vole pas très haut, mais c'est une série qui sait ce qu'elle est et qui s'amuse et qui amuse le spectateur avec elle et qui l'entraîne, qui crée des personnages et qui tient ses personnages aussi, parce que de plus en plus souvent, désormais, les personnages, adaptent leur personnalité aux rebondissements que les scénaristes ont en tête. Et Vampire Diaries, depuis 2 saisons et demie, tient ses personnages. Les réactions des personnages, en général, sont conformes à ce qu'on peut attendre d'eux, sans que pour autant ce soit attendu ou banal. Mais en tout cas, on est dans un univers de personnages cohérents qui existent.
Et on s'attache, surtout.
Oui, c'est vrai qu'on s'attache aux personnages, ce qui n'est pas évident dans ce genre de série. Et je trouve notamment s'attacher à l'héroïne de ce genre de série, parce qu'en général, c'est toujours facile d'avoir de bons méchants dans une série, ou de bons personnages un peu ambigus. Mais le fait qu'on aime les deux héros, par exemple, c'était pas du tout évident et c'était pas du tout gagné au début de la série. Et finalement, les personnages les plus réussis, c'est peut-être l'héroïne, Elena, et son copain, le gentil, entre guillemets, vampire. Et les autres personnages sont intéressants, mais c'est pas on n'a pas besoin d'eux pour apprécier un épisode. Et ce qui est intéressant aussi dans Vampire Diaries, c'est qu'on sent que les scénaristes ils sont capables de regarder leur série et de critiquer un peu ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas et de la faire évoluer en permanence, parce qu'on sentait bien en saison 2 qu'ils ont pressenti qu'il y avait des personnages qui étaient mal intégrés à la série, donc ils ont osé les tuer pour soit les réintégrer, soit les faire disparaître. Et on sent assez régulièrement que peut-être tous les 4 ou 5 épisodes, c'est comme s'ils faisaient un point sur ça marche, ça marche pas, on change de direction, on abandonne une intrigue, on en reprend une. Et c'est plutôt agréable à l'heure actuelle où il y a beaucoup d'autres séries où on a l'impression que les scénaristes sont tellement convaincus qu'ils font un truc génial que jamais ils oseront remettre en question une intrigue ou quoi que ce soit.
En même temps, le câble a ce problème, c'est qu'il tourne les 12 épisodes d'un coup. Donc les réactions, ce sera par rapport... réagir par rapport au sentiment des spectateurs, ça se fera sur la saison d'après.
Ah, mais je pense pas que ce soit par rapport aux sentiments qu'ils réagissent, parce que c'est tellement rapide que je pense que les épisodes sont pas encore diffusés quand ils font évoluer. C'est plus... par rapport à ce qui fonctionne ou pas, pour eux, j'ai l'impression. Mais je me trompe peut-être.
Et même, c'est plutôt une bonne chose qu'ils ne réagissent pas aux sentiments des téléspectateurs, puisque globalement, on s'en fout si les spectateurs aiment ou pas la série. Pour les créateurs, je pense que parce que c'est une industrie, etc., et qu'il faut qu'il y ait des gens qui la regardent. Après, justement, sur les séries du câble, en plus, on peut espérer qu'il y ait une vision générale, globale, d'un créateur qui a envie de raconter quelque chose et qui sait où il va. Donc,
il y a quand même une impression, surtout avec la CW, qu'il se préoccupe quand même de ce que les fans pensent.
Effectivement.
Beaucoup plus qu'une série du câble.
C'est vrai, mais en même temps, par exemple, il y a des personnages dans Vampire Diaries qui sont toujours là, alors que ça fait 2 ans que, je pense, tout le monde, les fans ne les aiment pas, mais visiblement, les scénaristes sont plutôt contents. Comment il s'appelle Non, parce qu'elle, au moins, genre, elle fait de la magie, donc elle a vaguement une utilité dans l'intrigue, mais l'autre...
Le blond
lycéen qui oui. sert à rien, il est toujours là, parce que visiblement, les scénaristes apprécient le personnage, mais je pense que s'ils allaient sur les forums lire quel personnage on doit tuer, ça ferait longtemps qu'ils l'auraient... Mais...
Une autre bonne série à l'ancienne qui était bien placée dans notre classement, c'est The Good Wife, qui est numéro 2. On parlera pas de Louis aujourd'hui, parce qu'il n'y a que moi qui regarde. Et la semaine prochaine, Iris pourra vous dire, vous faire sa déclaration d'amour à Louis, qui est une série qu'elle adule. Et donc nous, on va parler de The Good Wife, qui est en finissant sa troisième saison, et qui est une gentille série pour vieux, avec des vieux acteurs, qui se passe à Chicago, comme une certaine série il y a maintenant 15 ans, qui avait un petit peu amené aux séries télé. Non, on est arrivé avec quoi?
Bah ouais, avec Urgence quand même.
Urgence,
ouais. Urgence
et X-Files. The Good Wife, troisième saison, alors un peu moins faible, un peu plus faible que les deux précédentes, ou dans la même lignée
Moi, vraiment dans la même lignée, je dirais, c'est un peu tôt pour juger des intrigues. Finalement, je trouve que la saison 2, il y a des choses qui se sont un peu dégonflées. Ils avaient lancé beaucoup d'intrigues qui étaient intéressantes à suivre d'épisode en épisode, mais à la fin de la saison... ça semblait ça restait quand même vraiment à part l'évolution des personnages, des intrigues épisode par épisode, à l'exception de cette histoire avec Kalinda, le mari d'Alicia et Alicia. Et la saison 3, moi je la trouve très réussie parce qu'elle repose vraiment justement sur les épisodes indépendants. Les intrigues qu'il y a derrière fonctionnent en général assez bien, mais ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à chaque épisode ils se trouvent un petit twist dans leur formule. Et on a très rarement l'épisode typique où l'avocat défend un client de la façon qu'on attend. Il trouve toujours une manière un peu originale de raconter l'histoire et ça fonctionne toujours très bien.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Blackie, t'as rien à dire sur The Good Wife, sinon que c'est super, c'est ça? Parce que tu faisais le nom de la tête.
Oui, non, ouais. Je ne saurais pas développer dessus. C'est vrai que je la regarde un peu distraitement.
Ouais, mais moi, je crois que c'est vraiment la série que j'attends le plus impatiemment, plus encore que Vampire Diaries chaque semaine. Parce que je suis très rarement déçu, sauf peut-être l'épisode sur la peine de mort qui m'a un peu laissé perplexe.
Moi, j'avais bien aimé la fin, moi qui se trouvais...
Oui, qui n'avait pas la même interprétation.
Parce qu'à la fin, donc c'est l'épisode qui se termine où en gros Alicia va défendre
un condamné à mort
qui... Pourquoi il est condamné à mort? Parce qu'il est censé avoir...
Il a assassiné des gamines de 13 ans après les avoir.
Donc là, Alicia pense qu'elle n'est pas seulement une avocate, mais une mère d'une adolescente. Donc il y a ce développement un peu chiant, mais bon. Après, ça va dans le sens du personnage aussi. Ouais. Alicia, à la base, c'est quand même la gentille mère de famille hein, qui s'occupait de rien d'autre que de ses enfants avant que son mari la trompe. Et donc, elle, à toute fin, qu'est-ce qui se passe?
Eh bien, à la toute fin... Le condamné à mort voit ça. Oui, elle arrive à faire en sorte que la mère du condamné à mort ait le droit de le revoir une dernière fois avant qu'il soit exécuté. Et on s'attend à une scène effectivement un peu émouvante entre les deux. Et le condamné à mort dit à sa mère, je sais plus quelle horreur, en lui disant ouais, j'espère que tu crèves. Voilà. Et en fait, il est vraiment méchant. Enfin. Moi, je l'interprétais comme mon débarras. Finalement,
il y a des gens qui méritent, irrécupérables.
Mais ton interprétation était intéressante aussi.
Moi, ça m'avait bien plu qu'effectivement, ce soit pas une scène larmoyante et qu'on n'ait pas l'impression, parce que souvent dans les films sur la peine de mort ou quoi que ce soit, il y a ce cheminement du condamné à mort qui va trouver Dieu, qui va trouver la rédemption. Et donc, au final, ça justifie l'existence de la peine de mort, puisque ça permet finalement de réhabiliter la personnalité ou le rapport à la société de ces condamnés. Or, là, c'est l'exemple type que, de toute façon, la peine de mort n'a pas d'intérêt. C'est juste une façon de faire des économies. Enfin, ça coûte très cher, mais c'est juste... Ouais. Philosophiquement, de tuer le condamné. Et j'avais trouvé ça assez gonflé de la part de The Good Wife de justement, une fois encore, de prendre le téléspectateur par surprise et de pas aller dans les lieux communs qui existent et qui entourent ce genre d'épisode. Et au final, effectivement, bah, Alicia et tout le monde est bien emmerdé par, par ce gars, parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là, et est-ce que la peine de mort, ouais, c'est une solution? Moi, j'avais trouvé que c'était vraiment une chouette, chouette fin pour un épisode qui était
c'était
peut-être
pas
un...
à la fin. Mais non, ah, puisqu'après, justement, Kalinda a retrouvé sa fille, donc dans l'épisode d'après, justement, Alicia la comprend, elle a appris que Kalinda lui avait rendu service, et elle lui demande pourquoi tu ne me l'as pas dit.
Ah, mais attends,
c'était ça le dernier épisode.
Oui, le dernier épisode qui est passé.
Mais là, c'était en l'âge de la fin de l'épisode avec le condamné à mort.
Ah oui, avec le condamné à mort, oui, d'accord. Mais moi, ce que j'avais surtout aimé avec ça, c'est. C'était pas tellement la fin, c'était ce qu'il y avait avant. À essayer de chercher pourquoi est-ce qu'il était. Si c'était attaqué avec des enfants, etc. Alors, est-ce que t'étais pauvre? Est-ce que t'étais maltraité? Bah non, rien du tout. Et en fait, c'est. Pas de réponse.
Mais moi, ça m'a un peu gêné, justement, dans un épisode sur la peine de mort. Le côté ah mais regardez en fait c'est pas du tout son milieu social qui est responsable, parce que enfin une des critiques qu'on fait en général à la peine de mort, c'est que ça touche quand même beaucoup plus les milieux pauvres et noirs d'ailleurs en général aux États-Unis, et là effectivement c'était un peu ah ben non en fait regardez lui vraiment il a eu toutes les chances, donc la peine de mort c'est pas si critiquable que ça. Mais après, voilà, ça restait un épisode.
Comme ça, toi.
Moi, c'est ça qui m'a gêné en fait dans l'épisode, c'était cette succession d'abord du personnage qui n'a aucune excuse et ensuite à la fin qui est vraiment irrécupérable. Moi, ça me gêne pas que l'héroïne, enfin, c'est normal que Alicia, l'héroïne de la série, elle soit plutôt pro peine de mort, ça va bien avec le personnage, mais ça, enfin, les trois ajoutés, ça m'avait un peu, voilà, j'ai trouvé ça un peu simpliste pour la série, mais je pense qu'on peut l'interpréter différemment.
Moi, j'avais vraiment pris ça comme... Il n'y a pas de formule. L'humain est difficile à comprendre et il n'y a pas de solution non plus. Il n'y a rien qui soit finalement juste. Est-ce qu'on doit tuer? Est-ce qu'on ne doit pas tuer? Est-ce qu'on peut prévenir ce genre de choses d'arriver ou pas? Finalement, il n'y avait aucune solution d'aucun côté.
Oui, parce qu'il y a un discours rassurant dans le fait qu'il y a une explication à tous les comportements déviants et que donc ils peuvent être prévenus et que le risque zéro, bah, c'est quelque chose auquel on doit aspirer. Or, c'est pas le cas. Et comme The Good Wife est une série qui nous a donné confiance, justement, en général, dans ce genre d'épisode ou d'intrigue qui est sur le fil... Ben, je trouve qu'on voit, enfin, comme on a tellement confiance dans la série, enfin, moi ça me pose pas du tout de problème quand elle aborde ces sujets-là de façon un peu moins basique que d'habitude. Ou alors ce serait abordé dans une série un peu plus facho comme Les Experts ou ce genre de truc, là où effectivement c'est le degré zéro de la réflexion sur les crimes ou sur la violence. Là effectivement ce serait gênant. Mais dans The Good Wife, je trouve que c'est intéressant ces parti pris-là. Deux séries de network sur la chaîne des gentilles filles et la chaîne des vieux. On peut dire que Perdusa est vraiment dans la mode actuelle des grandes sagas du câble. Il y a quand même Breaking Bad qui est arrivé en cinquième position.
Alors que quand même, il faut le dire, c'est moins bon. C'est moins bon qu'avant. Il y a quelque chose qui a été... perdu, je trouve,
dans cette saison-là. Moi, j'avais pas de Breaking Bad, j'ai rattrapé la série quasiment en entier dans les deux dernières saisons, les saisons 2 et 3, juste pour être à l'heure de la saison 4. Et moi, j'avais été déjà déçu par la fin de la saison 3 où à un moment donné, moi, j'en ai marre de Jesse. Enfin, j'en ai marre que ce soit tellement débile du début à la fin. Enfin, c'est quand même ahurissant, le type. Il est débile du début à la fin. Il prend toujours les mauvaises décisions. J'avais plus aucune empathie pour ce personnage. J'avais juste envie qu'il meure. Et je trouve que ça fonctionnait pas très bien. Les petites coïncidences qui font partie de l'univers de Breaking Bad, en fait. Ça se veut pas complètement réaliste. Mais moi, ça me...
Mais ils s'en servent un peu trop. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est leur univers, mais là, ils commencent à s'en servir un peu trop comme d'une façon de... comme des facilités, en fait, pour leur série. Et c'est vrai que là, dans la saison 4, il y avait aussi pas mal de coïncidences assez... parfois troublantes et un peu en dessous, je trouve, de ce qu'on attend de la série.
Mais le gros souci pour moi, c'est comme tu dis, c'est l'empathie. Toi, c'est Jesse, moi, c'est Walt. C'est quand même le personnage qu'on suit en premier, depuis le début. Et c'est vrai que son évolution, bon, bah forcément, c'est le titre Breaking Bad, il devient mauvais, il devient très très ambigu, mais au bout d'un moment, c'était ni lui, ni sa famille, et plus aucun personnage finalement pour qui j'avais envie que les choses se passent bien, que j'avais envie d'apprécier. C'est aussi un problème que j'ai avec American Horror Story, c'est que je finis par détester tous les personnages. Et c'est difficile de suivre leur histoire quand tu ne les aimes pas, quand tu ne t'intéresses plus vraiment envie de t'intéresser à leur vie. T'arrives plus du tout à comprendre leur comportement.
Mais plus que les personnages, moi en fait, ce qui me gênait dans Breaking Bad cette année, c'est qu'effectivement, les personnages, pour certains, sont devenus antipathiques, mais à la limite, c'est plutôt intéressant d'avoir vraiment un vrai anti-héros qu'on n'est pas censé trouver sympathique et qui a pas sans arrêt, on n'a pas sans arrêt la petite scène rédemptrice quand il a fait quelque chose de pas bien. Mais ce qui est gênant, c'est que je suis plus du tout investi dans leur relation, parce que par exemple, la relation de Walt et Jesse, j'ai l'impression d'avoir tout déjà vu dans les saisons précédentes, et quand ça explose en fin de saison 4 et qu'ils s'entretuent presque, mais ça arrive un petit peu chaque année en fait, le moment où ils se fâchent, puis finalement ils se fâchent pas, puis finalement ils se refâchent, puis... et j'ai l'impression que la série faisait un peu du surplace dans toutes ses relations. C'est pareil, sa relation avec Skyler, on pensait que ça allait évoluer, puis finalement c'est quand même un petit peu le même type de relation qu'ils avaient dans la saison précédente, et on a un peu l'impression qu'ils font un peu du surplace quand même dans ces relations entre les personnages. On sent qu'ils savent ce qu'ils veulent faire à la fin de la série, mais que là ils sont un peu obligés de nous faire patienter. Et c'est vrai que la 15e scène de baston entre Jesse et Walt, on est censé être choqué parce qu'ils se mettent sur la gueule, c'est plus possible, on l'a déjà vu.
Voilà, mais comment tu peux t'attacher à des personnages qui en fait sont des caricatures, qui refont toujours la même chose et qui finalement n'ont pas des réactions un peu réalistes? Finalement, ouais. Au fond, c'est pas tellement le fait qu'ils soient antipathiques, c'est plus que tu comprends pas ce qu'ils font, ils font juste ce que le scénario leur demande de faire, parce que voilà.
Ouais, on sent qu'il y a quand même, dans cette saison 4, il y a quand même l'importance du rebondissement qui prend le pas sur les personnages, et il y a des scènes où j'imagine que les scénaristes savent qu'ils sont doués dans les scènes de suspense, et on a vanté... tout un tas d'épisodes de Breaking Bad de ce point de vue-là. Mais alors les scènes de tension des tout derniers épisodes de la saison 4, la scène du parking, où on ne sait pas pourquoi, ça prend autant de temps, Gus sent, on ne sait pas pourquoi, il sent qu'il ne faut pas monter dans cette voiture... C'est vraiment étrange, et puis il y a moi ce procédé scénaristique que j'aime de moins en moins, qui est on nous raconte tout depuis le début, et puis juste pour nous choquer en tant que spectateur, et ben à un moment donné on va cacher 3-4 actes que va faire Walt. On a toujours suivi dans tout ce qu'il faisait après, enfin, et sauf que là pour avoir le plan final sur la plante et dire c'est lui qui avait empoisonné le gamin, qui en plus comme plan, enfin, il y a quand même toutes les chances que ça foire. Il y a quand même toutes les chances que ça foire, puisqu'en gros c'était compté sur le fait que Jesse ait cette réaction là à tel moment, et que
il change d'avis après, avant de le tuer.
Dans genre plan foireux, enfin, il avait qu'à le tuer lui-même, ça allait plus vite.
Et puis en plus la saison, enfin c'est vrai que la lutte entre Gus et Walt, bon moi Gus c'est pas un, enfin beaucoup ont trouvé que c'était un méchant extraordinaire. Moi, je le trouvais un petit peu caricatural et un peu trop toujours le méchant parfait, bien sûr lui, et pas suffisamment. Ouais, j'ai pas suffisamment. Enfin, je trouvais que comment il s'appelle le détective là qui arrête pas de. Il était Mike, son l'assistant du méchant. Ouais. C'était un méchant beaucoup. Enfin, voilà, là, ça m'intéressait. Alors que la relation entre Gus et les autres, où on a toujours l'impression qu'il manipule tout le monde, qu'il a une longueur d'avance, c'était un peu. C'était assez lassant, moi j'ai trouvé, sur 13 épisodes, ça méritait pas 13 épisodes, et surtout la fin de la saison, c'est exactement ce qu'on attend depuis le début. Enfin, dès le premier épisode de la saison 4, on se doute que pendant toute la saison, Walt va affronter Gus, et qu'à la fin, il va réussir, par un rebondissement inattendu, à se débarrasser de lui. Et j'étais assez déçu d'avoir exactement ce qu'on pouvait attendre dans un final.
Un peu comme le fait que son beau-frère... à chaque fois approche de la vérité, il a toujours le nez sous la vérité, et non, à chaque fois il rate, il ne voit jamais rien, il y a toujours quelque chose qui se passe, et finalement à force, la tension que j'avais au début en me disant, oh mon dieu, il va tout découvrir, enfin, il va y avoir vraiment quelque chose, maintenant je me dis, ouais, bon, c'est bon, d'ici 5 saisons, il ne saura toujours pas.
Je pense que la série paye le fait de son succès et qu'elle va durer encore 16 épisodes ou quelque chose comme ça. Et par son sujet, c'est une série qui aurait tenu sur 3 bonnes saisons parce qu'ils avaient des choses à dire. Parce que là, quoi qu'il arrive, Walt a un tel degré de perfection dans la fabrication de son produit. De toute façon, il va être toujours confronté à des énormes réseaux de trafiquants organisés. Et fondamentalement, c'est chiant. C'est un peu comme... comment elle s'appelle dans Weeds.
Ouais, Marie-Louise Fernandez.
Weeds, à la base, ça peut fonctionner tant qu'elle trafique gentiment un petit peu de hashish. Mais dès que, de toute façon, ils deviennent des...
la cible d'un cartel.
Voilà, ça devient déjà beaucoup plus difficile à mettre en scène, à rendre crédible. Et fondamentalement, c'est pas super, super novateur et intéressant. Et effectivement, la relation Walt et Jesse, là...
C'était ce qui faisait l'intérêt de la série au départ, et finalement, là, ça évolue plus. Ensuite, bon, moi, la saison 4, j'ai quand même des épisodes que j'ai trouvé excellents. Il y a des moments, ça fonctionnait vraiment. Mais ce qui me gênait, c'est qu'effectivement, il y a quand même un décalage, je trouve, entre la réception de la série auprès du public, qui trouve tout parfait, et des défauts qui semblaient assez évidents. Même dans la réalisation, moi, la réalisation de Breaking Bad, j'ai toujours trouvé la série magnifique, mais cette année, j'avais un peu l'impression que les scénaristes filmaient des trucs en se disant « Ah, les gens vont trouver ça beau !» Et dès qu'on ouvrait un bidon, la caméra était à l'intérieur du bidon. Dès qu'ils pouvaient mettre la caméra à travers
une vitre, un filtre, un truc dégueu, à un moment donné... Ah oui, de magnifique, ça devient maniéré.
Et c'est ça, et c'était un peu... et ça, personne ne le remarque. Tout le monde a l'air de trouver ça très beau. Et c'est vrai que la série, et même au niveau des intrigues, je trouve que la série, comme tu disais, elle se regarde un peu faire des scènes de tension. Et c'est vrai qu'il y en a qui fonctionnent vraiment. Il y a quelques scènes, la scène en espagnol, où c'est un flashback avec Gus et l'autre, ça marchait très bien. Mais il y a d'autres épisodes où ils font des scènes, et on voit l'artifice, en fait. Et c'est ça qui me gêne, c'est que je trouve que c'est une série où il y a quand même... pas mal d'artificiel et ça se voit.
American Horror Story, Iris en parlera aussi la prochaine fois puisqu'elle est fan au dernier degré. Le souci qu'on a avec Blackie, c'est qu'elle a pas vu le dernier épisode de la saison. Non mais on n'est pas obligé, non mais on peut parler de la série de façon globale. On lui a expliqué quand même qu'en saison 2 ce serait d'autres personnages, donc ça elle est courant. Et voilà, cette série, on a quand même été un peu bizarre, puisque Ryan Murphy...
on le déteste.
À la base, Perdusa n'a pas été tendre avec lui depuis la saison 3 de Nip Tuck.
Ouais.
Glee n'a jamais eu...
la cote.
La cote à la rédaction. Et alors, clairement, c'est le foutoir, cette série. Il y a tous les pires défauts qu'on peut reprocher à Ryan Murphy, et pourtant, c'est quand même numéro 8, je crois, dans notre top. Cette année.
Voilà.
Bon. Je pense que Blackie est celle qui comprend le moins, puisque c'est toi qui avais mis la note la plus faible. T'as dû mettre C-.
Oui. Je pense que j'ai eu des hauts et des bas avec cette série. J'ai haï Pilote. J'ai continué à regarder, je ne sais même pas pourquoi. Je sais pas, c'est comme les gens qui sont fascinés par les accidents de voiture. Et c'est vrai que vers le 4e, 5e épisode, c'était le double sur Halloween. Là, tout à coup, ça a décollé. Là, c'était un petit peu progressif avant, mais là, tout à coup, j'avais rien acheté. J'ai commencé à m'attacher à certains personnages. J'ai trouvé les intrigues vraiment intéressantes. Et puis, 2 épisodes plus tard, c'est reparti dans ses défauts.
C'est quoi ces défauts ?
C'est vouloir faire des rebondissements à tout prix. Même s'ils vont amener à rien, ou qu'ils n'auront pas l'air logiques, vouloir faire dans le choquant aussi, avoir des personnages absolument détestables. Pardon.
C'est Blackie qui joue avec son poney. Ce bruit stressant.
Désolée.
Mais parce qu'elle est en pleine période années 20, tout ça, c'est Margaret Schroeder, elle a mis son collier avec ses grosses paires, elle est à New York. Il n'y a aucune pointe de jalousie dans ce que je raconte. Tout, c'est juste des faits.
Je ne sais même plus ce que je disais. Oui, sur les personnages que... Le peu de personnages que j'appréciais, qui étaient Tate et Violette. Oui.
Tate, c'est le blond.
Voilà, ah ouais, mais c'est le tueur, tout l'épisode sur Halloween, c'était sur ce couple. Hein, c'était... c'était sur le passé de Tate, sur ce qu'il avait fait, sur Violette qui découvrait, bah ça y est, elle comprenait qu'il y avait des fantômes, elle comprenait que le type qu'elle aime, non seulement il a fait des choses mauvaises, mais en plus de ça, il sait même pas très bien sa situation. Elle commence à être en contact avec la voisine, Jessica Lange, je sais plus du tout le nom du personnage.
Jessica Lange.
Jessica Lange, de toute façon, voilà. Elle joue pas autre chose que Jessica Lange joue une folle.
Qui elle aussi est géniale, mais ça démarrait bien, on comprenait que Violette avait un don, enfin vraiment il y avait quelque chose d'intéressant, et tout à coup c'est oh puis non, on va faire en sorte que Violette soit morte. Donc voilà, super, les deux seuls qui restent vivants, bah, c'est la mère qui est partie chez les fous dans l'asile, et puis un père absolument détestable qui est le plus mauvais psy du monde. Ce type est juste con, faut bien le dire, il est con et détestable, mais par contre qu'est-ce qu'il aime faire des leçons à sa famille, hein.
Je sais pas si c'est son personnage, c'est Dylan McDermott qui réussit à modeler tous ses personnages, parce que les personnages dans The Practice c'était la même chose, le connard, donneur de leçons.
Non, il était pas allé de ça à ce point.
Ryan Murphy n'aime pas les psys de toute façon.
Il en a jamais vu.
Clairement, il déteste les psys et il a montré que ça marche pas.
Dans le dernier épisode,
il le confirme. Ouais. Mais moi, je trouvais que c'est une série qui avait beaucoup de charme. Et pourtant j'avais pas spécialement aimé le pilote, mais ce qui m'a plu dans la série, en fait, c'est il y a beaucoup de choses qu'on a reproché à American Horror Story et qui moi m'ont pas du tout dérangé et qui je trouvais contribuaient plutôt à en faire une série plaisante, notamment la succession de clichés, parce que effectivement on est vraiment en permanence dans des clichés d'horreur qui sont pas du tout renversés ou autres. Enfin, il y a les fantômes, il y a cette histoire d'Antéchrist, il y a le monstre dans la cave. Mais moi, je trouvais qu'en mettre autant en même temps dans un seul épisode, ça fonctionnait plutôt bien. Après, au niveau du casting, c'était quand même, enfin, faut dire qu'ils avaient quand même des acteurs assez bons.
Ah oui, bon. Voilà, folie, pense ce qu'on veut de Dylan McDermott, mais alors tout le reste
c'est impeccable.
Ils sont super. Ouais.
Et c'est une série qui faisait assez peur, en tout cas au début. Enfin, je trouve notamment les pré-génériques à chaque fois où on voit les meurtres dans les maisons, bah ça fonctionnait. Moi, j'étais dedans. Le problème, c'est qu'évidemment, ce genre d'histoire, ça fait peur au début parce qu'on se demande ce qui se passe, et puis à mesure qu'ils se sentent obligés d'expliquer, parce qu'il faut reconnaître que la série tient plutôt ses promesses en expliquant un peu l'origine de tous les événements étranges qu'on voit au début, bah, une fois que c'est expliqué, ça fait beaucoup moins peur. Donc les derniers épisodes, en ce sens, sont moins efficaces parce que ça devient plutôt une histoire de fantôme dans laquelle, en fait, on comprend tout. Donc c'est, voilà. Mais moi, je trouvais que ça avait beaucoup de charme.
Il y a justement peut-être trop de fantômes, trop d'explications. Et c'est vrai que maintenant, la famille qu'on a appris à suivre, à connaître, on s'est dit, bon, bah, si c'est leur entrée dans la maison qu'on suit, c'est qu'il doit y avoir une raison. Moi, c'est en tout cas, je suis partie là-dessus. Bon, après, s'ils vont juste devenir des fantômes parmi tant d'autres, d'accord, c'est un parti pris, mais le fait est qu'on n'a fait que nous introduire encore un autre fantôme par semaine avec son histoire. C'est arrivé. Finalement, c'était cherchons des petites histoires comme ça de fantômes sur leur passé. Allez, on va mettre le Dahlia noir là-dedans. On l'avait jamais vu auparavant. Allez hop, on la met là dans un épisode. En plus, ce qui est très drôle, c'est qu'elle devient la patiente du père. Tu te demandes comment il gagne sa vie, celui-là. Quand il a quelqu'un de vivant, il lui dit j'ai peur des miroirs. Bah tiens, va prendre un rasoir et va te mettre devant un miroir. Non mais t'as pas trouvé plus idiot à dire à quelqu'un.
Enfin, moi j'ai trouvé ça super drôle, cet épisode.
Mais justement, ouais. C'est tellement n'importe quoi. Je comprends pas comment on peut avoir peur.
Parce que c'est des légendes urbaines, en fait. Enfin, moi, toute la série, pour moi, c'est une grosse légende urbaine. Donc, je trouvais ça plutôt drôle qu'ils traitent quelqu'un qui avait peur d'une légende urbaine débile. Et visiblement, ils n'ont pas le droit de faire ça avec Candyman. Donc, ils ont fait ça avec un mec à tête de cochon. Mais c'était... moi, ça... Enfin, je regardais vraiment ça comme un soap avec de l'horreur. Hein, donc, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien.
C'est un peu toutes les semaines, ils avaient... finalement, c'est revenu à toutes les semaines, on va faire mourir quelqu'un ou raconter l'histoire de quelqu'un qui est mort, mais on s'en fiche et on ne le suit plus après. C'est pour ça que j'aimais Tate, parce que vraiment, il était là depuis le début. On a compris un petit peu plus tard qu'il n'était pas vivant, qu'il n'était pas un patient normal. Après, on a eu son passé. Enfin, vraiment, il y avait une évolution, on suivait quelque chose. Et là, j'étais investie.
Oui, mais l'histoire principale, moi, je trouve qu'elle était pas si... Enfin, effectivement, Tate, c'est un personnage qui est plutôt réussi sur la longueur, mais sinon, l'histoire, S'ils avaient juste raconté l'histoire de cette famille dans la maison avec la femme qui tombe enceinte d'un fantôme, ça n'aurait pas été spécialement intéressant. Ce qui ajoutait à la série, c'était toutes les couches sur les autres fantômes qui en général étaient plutôt bien fichues, avaient des histoires d'horreur plutôt intéressantes et ça permettait d'avoir le serial killer, les histoires un peu du mec Frankenstein, le chirurgien fou. Voilà, et d'avoir un.
Je trouve pas qu'ils en ont trop mis.
Moi, plus il y en avait ça, c'est pas qui me plaisait dans la série en fait, c'est qu'à un moment il y en avait tellement
que tu pouvais. C'était marrant voilà. Dans la série, c'est jouer sur, jouer avec, c'est pas ouais. Jouer sur, mais jouer avec tout ce qui fait ouais. Le sel des. Non, tous les clichés, tous ouais. Les clichés de l'horreur urbaine, et puis on met tout ça, et puis chaque. Enfin, c'était le principe de la série, en gros, chaque épisode. On s'attelait à une nouvelle intrigue, et puis on mettait ça dans le pot, et puis on tourne, et puis résultat, à la fin, moi, ce qui m'amuse aussi, enfin, ce qui m'a bien amusé, c'est qu'il y a tout le monde, mais c'est qu'il y a tout le monde, et ça, c'est en gros, c'est Big Brother, mais avec des fantômes, et je crois que j'aurais peut-être été intéressé par voir, au final, voilà, de toute façon, la perdue, on n'est jamais content. Et j'ai plutôt accueilli ça comme une bonne nouvelle que la saison 2 soit avec des personnages complètement différents, un autre endroit, et raconte une autre histoire.
C'est un autre endroit ?
Ouais.
Ouais.
Ce sera vraiment. Ça ne sera pas la même maison ni rien. Ce sera...
D'accord, bah là, mais j'aurais bien dire, aimé. Là, c'est intéressant parce
j'aurais
que,
bien rien, aimé,
juste...
au final, peut-être voir comment est-ce que tous ces personnages, en gros, plus, qu'il n'y ait plus d'humains, qu'il n'y ait plus que des fantômes. Et comment est-ce que tous ces gens-là vont vivre leur éternité ? Parce qu'en gros, ils sont condamnés à être là, à ne pas mourir. Comment est-ce qu'ils pourraient cohabiter ?
C'est vrai que ça aurait pu durer quelques épisodes de plus là-dessus. Mm. Mais ensuite, ça n'était plus une série d'horreur, du coup. C'était, mais c'est vrai que ça aurait été intéressant aussi. Et puis, c'était quand même assez génial, ce concept de la maison, où quand les gens meurent, ils se retrouvent coincés dedans. Et au début, on a 3 fantômes, puis à la fin de la série, effectivement, on se retrouve avec genre 200 fantômes en concurrence qui apparaissent une demi-seconde par épisode, l'amante du mari qui se retrouve coincée dans la maison aussi. Enfin, tous les personnages se retrouvent enfermés dans la maison à la fin. Et c'est assez drôle, enfin, ça donne des scènes assez comiques aussi.
Si vraiment ça change de lieu, comme vous dites, et complètement de personnage, ce sera peut-être bon à revoir dans son intégralité un peu plus tard. Tout en sachant que voilà, c'est juste une parenthèse sur cette maison. On suit cette famille-là qui va juste s'accumuler à ce qu'il y a eu avant. Et il y aura un après. Apparemment, si la maison reste, c'est qu'il y aura un après.
Oui.
C'est juste une parenthèse. Ah, oui, c'est juste à voir dans ces cas-là comme
un moment.
C'est
juste un film
moment.
D'horreur sur 13 épisodes.
C'est ce moment-là dans la vie de cette maison, finalement. Alors que moi, j'avais l'impression que c'était plutôt la vie de cette famille.
D'accord, bah oui. Mais
en fait, on ne savait pas ce qu'on regardait, je crois.
Bah oui,
mais c'était plutôt ça qui m'avait plutôt intéressé dans le pilote, c'est que j'avais pas bien compris hein, du tout ce qui se passait, et c'est ça qui m'avait plu parce que pour une fois c'était pas complètement évident. Alors forcément c'était mal foutu, surtout les personnages principaux, les personnages vivants. Moi mon souci c'est que on les connaissait pas, on les aimait pas forcément, on les a jamais aimés, ils ont jamais été développés. C'est toujours resté très très superficiel parce qu'il y avait tellement de rebondissements, et c'est le reproche, j'ai l'impression que je fais tout le temps, en gros, c'est que les personnages n'existent pas, donc peu importe les rebondissements, puisque comme on connaît pas les gens. Mais là, comme c'était un tel foutoir, qu'il y a des rebondissements partout, et que c'était un peu flippant, ça m'a bien plu. Et puis, apprendre à... J'ai l'impression qu'au fur et à mesure des épisodes, t'apprends à justement qu'est-ce que ça va être cette série. Alors en fait, ah bah oui, tiens, c'est les fantômes. Et au final, moi ça m'avait intéressé, j'étais me dit, bon tiens, ça va être l'histoire des fantômes en fait. Et justement, on est pris. Et là, je trouvais ça drôle comme jeu scénaristique avec les téléspectateurs. C'est, ah bah non, manque de chance, non, on n'allait pas vous raconter l'histoire de cette famille chiante, mais c'est l'histoire de tous les fantômes qui sont autour. Donc voilà, mais en tout cas c'est plutôt original dans la production actuelle, et je pense que je regarderai la saison 2, j'attendrai la saison 2 avec intérêt.
Ils devraient avoir un casting de malade, parce que maintenant qu'ils ont plus ou moins officiel, enfin s'ils ont eu un casting pareil, c'est en grande partie parce que les acteurs ils voulaient pas signer des contrats de plus d'un an, mais qu'ils étaient ravis de faire une série de 13 épisodes, et je pense que vu le succès l'année prochaine, ils peuvent décrocher encore très, enfin, parce que l'idée c'est soit ils vont reprendre les mêmes acteurs dans d'autres rôles, mais je sais pas, ça risque pas d'être un peu étrange, soit ils vont se dégoter un casting.
Ça serait pas mal, mais c'est comme moi j'aime bien les
le concept
de la série que t'apprends à comprendre. Je sais pas si c'est clair. C'est comme Louis, c'est un peu bizarre. Au début, tu regardes, c'est les épisodes se suivent pas, c'est les mêmes personnages, mais il n'y a pas de continuité entre les intrigues, mais c'est les mêmes personnages d'épisode en épisode. Et une fois que t'as appris à comprendre ce qui se passait, c'est plutôt sympa.
Mais c'est vrai que là, les deux premiers épisodes d'American Horror Story, on comprend rien. On se dit à aucun moment, on se dit c'est des fantômes, pas des fantômes. On ne sait pas, on a l'impression qu'il y a 15 000 intrigues qui n'ont rien à voir entre elles. Et finalement, petit à petit, c'est d'ailleurs assez appréciable, ça commence à se lier, et même si l'explication derrière tout ça est un peu débile, on se rend compte qu'en fait ça avait du sens dès le début. Mais c'est vrai qu'au début on est perdu et c'est assez... assez sympa, une série qui n'est pas tout emballée exactement avec un concept qu'on nous explique très clairement pendant le pilote.
On a fait le tour sur Ryan Murphy. Plus personne ne regarde Billy.
Non.
Non, même pas un petit épisode comme ça.
J'ai dû regarder un épisode. Oui, j'ai regardé l'épisode où ils couchaient ensemble et où en fait le sexe sautait bien. Puis bon, les chansons étaient absolument atroces parce qu'ils reprenaient West Side Story, ce qui n'était pas très réussi. Mais l'épisode en lui-même était regardable. Et tu regardes, toi ?
Ouais, je regarde, mais en fait, j'ai rien à dire sur Glee. Mais c'est moins mauvais que ce que j'avais pu en dire au tout début, mais c'est vraiment pas bon. Et là, pour le coup, les personnages qui changent de
personnalité
à chaque
épisode.
Non, mais c'est même pas à chaque épisode, c'est toutes les 5 minutes.
Chaque
personne n'a jamais de réaction. Mais le souci de Glee, c'est que les personnages
n'existent pas
du tout, jamais.
Oui, enfin, sur American Horror Story, il est quand même bien entouré, Ryan Murphy. Je ne sais pas ce que ça donne sur Glee, mais en tout cas, sur son autre série, il a des bons scénaristes, il a une bonne équipe, donc...
Ils ont d'autres, parce que dans Glee, en fait, ils sont que trois. Il y a Brad Machin, là, qui est le co-créateur de American Horror Story. Et puis un troisième, et en fait, Glee, ils ont tourné qu'avec trois. C'est pour ça qu'en plus, ça tournait en rond.
Et puis en plus, je crois qu'il en a rien à foutre de ses personnages. Enfin, clairement, c'est des personnages qu'il aime pas. Il essaye à aucun moment de les rendre sympathiques. Si à un moment, un personnage commence à être un peu attachant, en général, l'épisode d'après, il fait n'importe quoi. Moi, le seul truc qui me gêne dans Glee, c'est que c'est une série qui se présente vraiment comme la série un peu genre super ouverte d'esprit sur tous les sujets et qui souvent, je trouve, est très à côté de la plaque quand elle aborde des sujets un peu sensibles. Moi, j'ai été traumatisé par l'épisode en saison 2 où ils gagnent leur compétition en faisant une chanson qu'ils ont écrite eux-mêmes. Et la chanson, en gros, le contenu, c'est « Ah, on est des losers maintenant ». Mais quand on sera riche et célèbre, tu regretteras de ne pas avoir été sympa avec nous. Et où, en gros, les seules valeurs promulguées par la série, c'est celle de l'argent, avoir une grosse voiture et avoir un métier qui rapporte du fric et qui rend célèbre, sans aucun recul. Et c'est ça qui me gêne, c'est le décalage entre ce que la série pense être et le vrai message qu'il y a derrière. Ah, après, sinon,
c'est comme ça que Ryan Murphy pense.
Ouais, mais c'est...
C'était Kristen Chenoweth n'a pas pu revenir pour un épisode de Glee parce qu'elle avait un contrat sur une pièce de théâtre, je crois, ou quelque chose. Vraiment, elle ne pouvait pas. Hein. C'était genre, c'est gentil, mais je suis désolée, là, mon emploi du temps, c'est pas possible. Bah, lui, c'était bon, bah tu vas le regretter, t'es sur ma blacklist. Vraiment, c'est genre, je suis génial et je te le ferai payer. Et c'est. Voilà. Et on dirait qu'il doit retranscrire ça dans ses séries.
Bah, peut-être.
Voilà,
et puis les chansons sont quand même moches souvent.
Il nous reste à parler de Happy Endings, qui est la seule série que tous les rédacteurs regardent à Perdusa. C'est la seule. C'est Jus qui avait pointé ça. Alors pourquoi est-ce que un Friends moins drôle sans rien enregistrer réussit à réunir tous les rédacteurs devant elle?
Moi, je dirais que c'est à peu près tout ce qu'on a dit depuis le début de ce podcast, c'est-à-dire des scénaristes qui font des efforts, qui essaient de nous surprendre, des personnages attachants. C'est la formule toute bête. Voilà.
Ouais, ce qui est chouette, c'est en plus c'est qu'ils ont évacué complètement le point de départ, qui était l'histoire entre les deux blonds, entre les deux blonds, qui se révèlent être les personnages
les plus drôles finalement.
Les plus drôles, mais en fait les moins exposés, ils sont toujours en arrière-plan et ils sont vraiment chouettes. Moi, c'est Elisa Machin, la fille de 24, c'est celle qui me fait le plus rire dans la série. Je pense pas qu'elle ait une palette quand même hyper large.
Non, mais je crois qu'ils ont adapté.
Mais ils se sont dit, bon, ben, faire la neuneu.
Mais elle le fait bien.
Elle le fait super
bien. Et avec bonne humeur. Mais en plus, je trouve que c'est une. Enfin, moi, ça me fait un peu penser à Cougar Town, en fait. Parce que c'est vraiment la série qui partait mal avec un pitch pas vraiment. Intéressant et très vite les scénaristes, je pense au bout de deux épisodes, ils se sont dit non mais ça c'était un pitch sympa pour réussir pour à obtenir un producteur et le vendre à ABC, mais là on va se concentrer sur ce qui fonctionne. Et c'est vrai qu'ils ont six acteurs qui sont très bons et qui savent écrire des dialogues et développer la relation, je trouve, entre ces personnages. Parce que moi, ce que j'aime dans la série, c'est qu'il y a toujours des scènes de groupe entre les six, ce qu'on n'avait pas forcément dans Friends ou dans d'autres séries du même genre, et que même quand ils ont chacun leur intrigue un peu de leur côté, il y a toujours deux, trois scènes où ça finit par tout se mélanger dans une scène assez bordélique mais drôle. Et c'est vrai que le meilleur, c'est quand même les scènes où il y a trois ou quatre acteurs ensemble, voire les six.
Il me donne vraiment l'impression d'avoir adapté la série en fonction de leurs acteurs. Comme s'il y avait vraiment une collaboration entre les acteurs et les scénaristes. Genre, toi, t'es vraiment bon dans ce style. Genre, Elisa Cuthbert, elle fonctionnait pas au début. Ils se sont dit, elle arrive très bien à faire l'idiote. On va accentuer ça. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une collaboration et qu'ils évoluent en fonction de ce que l'acteur peut apporter.
Et je me demande à quel point il n'y a pas des scènes qui sont complètement improvisées ou en partie. Parce que des fois, ça, c'est peut-être juste qu'ils arrivent à être très naturels, mais on a l'impression que les scènes se créent un peu sous nos yeux parfois.
Oui, ça se demandait parce que Elisa Coupé, je ne sais plus comment on prononce.
Ouais.
Nous, on l'a connue, c'est vrai, dans Scrubs, dans la comédie déjà. T'as le fils Wayans, je suppose qu'il a l'habitude de l'improvisation. Casey Wilson, elle était dans SNL, donc l'impro, pareil, elle connaît. Ils ont une sacrée équipe qui doit vraiment improviser sur le plateau.
Ensuite, moi, je trouve qu'il commence à y avoir quelques limites dans la série. Il y a quelques personnages que je trouvais drôles au début et qui, là, sont un peu trop caricaturaux. Il y a le gros gay qui, au départ, c'était assez marrant d'avoir un personnage en décalage avec ce qu'on attend. Et là, ça commence à être juste un personnage un peu dégueu qui passe son temps à bouffer n'importe quoi en s'en mettant partout. Et c'est vrai que ce qui était drôle dans les premiers épisodes, là, ça commence à créer un personnage dont les intrigues m'agacent, parce qu'en fait, il n'est pas gay, il est juste bizarre, enfin, il a des réactions bizarres, il aime des trucs bizarres, mais ça... Voilà. Et Elisa Coupe me fatigue un peu aussi par moments.
Qui ça ?
Elisa Coupe,
Ouais.
C'est un peu Monica puissance 10 000, en fait.
C'est trop caricatural, là, pour le coup. Et puis, elle, d'épisode en épisode, elle ne change pas tant que ça. Enfin, ou en tout cas, ça ne varie pas assez sur sa partition. Mais effectivement, ouais, le personnage de Max, là pour le coup, l'empathie, moi je commence à avoir un problème avec lui, parce que c'est normal que, même je trouve ça un peu bizarre qu'il soit ami avec, que les cinq autres soient amis avec lui, parce que c'est quoi ce gros lourdeau, bouffe, crade.
Mais je crois qu'ils ont essayé de rattraper ça dans le dernier épisode, quand ils se déguisent en Père Noël, essayer de montrer des côtés un peu gentils, un peu généreux, parce que Max devenait juste un type détestable, qui déteste tout.
Sous son... Ben, on devrait l'engager. Oui, il a des revues à perdu ça, il a le profil. Non, mais moi je trouvais atroce cet épisode-là, où il est sous le costume. J'avais vraiment l'impression du vieux pervers dégueu. Qui dit qu'il aime pas les enfants, mais je sais pas, lui me met mal à l'aise. En même temps, ça arrive pas souvent, donc c'est plutôt c'est plutôt bien. Est-ce que vous avez une série que vous attendez avec impatience en 2012?
Game of Thrones, la saison 2.
Mad Men.
Ah,
et beaucoup de séries anglaises, désolé.
Et ce serait quoi les séries anglaises?
Sherlock. Le retour
Ça commence pas ce soir?
Oui, tout à fait. Le 1er janvier.
Bon, on sera pas d'accord.
Voilà. Sherlock, Ben Newman, Doctor Who. Beaucoup de choses anglaises.
Tu attends encore Doctor Who?
Enfin, l'attends.
T'as pas l'impression que David Moffat a tué la série?
Non.
Non? Juste, tu trouves, tu préfères quelle période, Moffat ou Davis? Et il faut choisir pas une réponse
non,
à la.
Pas.
Ah, je ne sais pas. L'an ce dernier... serait comme deux enfants. On les aime différemment, mais on leur donne autant d'amour. Non.
Bah, sois honnête. C'est difficile à juger. Il y en a un qui a juste deux saisons. L'autre, il en a eu quatre derrière.
Ça nous empêche pas d'avoir des jugements à l'emporte-pièce sur
l'an
toutes les
L'an dernier, je t'aurais dit Moffat sans hésiter. L'an dernier. Là, maintenant, effectivement...
Là, maintenant, tu te rends compte que Davis
non,
est quand même quelqu'un
tout, si.
Qui
y a
s'est
des
développé
différents.
Des personnages.
Non, de toute façon, c'est pas le village. On n'est pas censé développer là-dessus.
Ça passe sur BBC America et
oui,
Torchwood. Torchwood, qui est le spin-off, a été produit par une chaîne, a été coproduit par une chaîne américaine.
Et c'est pour ça que c'était tout pourri.
Ouais. Moi j'en ai bien regardé Shameless sur Showtime, mais comme j'ai vu la saison, j'arrive plus à parler, je pense que je vais juste dire que j'attends quoi comme série Justified la saison 2, et puis on va s'en tenir là pour ce premier podcast de 2012. Apparemment il va y en avoir un deuxième, ça va être le dernier,
mais
en attendant...
C'est quoi ta conclusion alors sur notre... Sur notre tableau, finalement, sur les critiques qu'on a eues, sur le fait, bah oui, mais vous regardez pas les bonnes séries. Alors, on a expliqué pourquoi on les aimait, celles-là. Mais...
Alors, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a dit qu'on adorait les séries de Network pendant une heure et que finalement, les séries qu'on attend en 2012, il n'y en a aucune qui est sur un Network. Donc,
il y en a même, ils ne sont même pas diffusés aux États-Unis.
Peut-être, peut-être qu'on compense d'une certaine façon à un manque.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on. Enfin, je dis « on », mais moi, par exemple, qui me fait... Je sais pas si c'est parce que je me fais vieille, mais c'est vrai que j'ai tendance à être beaucoup moins patiente avec les séries. C'est vrai que toutes ces belles séries d'HBO, etc., qui sont magnifiques, mais froides, et qui mettent du temps à s'investir, et j'ai plus la patience, j'y arrive plus.
Je pense que c'est les séries qui sont pas au niveau. Je pense que Six Feet Under ou les Sopranos, enfin tu
le
prends les Sopranos, question de développement des personnages, et l'image est plutôt jolie, hein, c'est plutôt très beau et c'est lent, etc. Question personnage, c'est incroyable, tellement c'est profond, tellement c'est fouillé, et voilà, t'as pas à faire d'effort du tout. T'as pas à attendre en te disant non, mais dans 10 épisodes ça va être bien parce que je serai attaché à ces personnages. Je sais pas, et c'est. Je pense qu'effectivement là il y a un souci. Je pense qu'il y a la recherche du spectaculaire. C'est vieux con, hein. Mais. effectivement, il y a de moins en moins de séries qui sont juste basées sur bon, ben on va suivre ces gens-là et puis vous allez voir, ça va être super parce que c'est des gens qui. Pour lesquels vous allez développer un attachement. Non, il faut d'abord qu'il y ait une situation inattendue, extraordinaire, qu'on les mette dans un contexte hyper particulier, où de toute façon, c'est les rebondissements qui vont primer sur les personnages.
Mais tu vois, Boardwalk Empire, je l'ai vraiment laissé tomber jusqu'à pendant plus d'un an. Parce que justement, c'était ça le début, ça n'accroche pas.
Mais une série,
et t'es récompensé qu'une saison plus tard.
Bah ouais, mais c'est quand même un souci. Enfin, moi, c'est vrai que par exemple, Mad Men, j'ai pas accroché, j'étais pas à fond dès le début, comme je peux être à fond dans la saison 3 et 4. Maintenant, dès la saison 1, j'ai trouvé la série intéressante et j'ai pas eu à me forcer pour regarder en me disant non, mais il paraît que c'est génial après. Et une série, c'est quand même pas. Enfin, c'est quand même gênant ces séries où on est obligé maintenant de regarder 15 épisodes avant que ça devienne bien. Normalement avant ils faisaient un effort pour que dès le pilote ce soit intéressant et après petit à petit il faut que ça se développe et peut-être que ça devient encore mieux après. Mais, et Boardwalk Empire, moi j'ai pas regardé mais je l'ai vraiment ressenti comme une série de commandes et peut-être que je suis complètement à côté de l'attaque et que vraiment
c'est une série de commandes
voilà,
effectivement.
Il fallait une série historique, pas dans les années 60 mais plutôt... et moi toutes les séries qui se passent dans les années 60 sur les networks, même s'il paraît que Panam c'est pas mal, j'ai pas du tout envie de regarder ça. Enfin, c'est des séries qui me font absolument pas envie, même si elles peuvent avoir des qualités par ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment... Ils ont trouvé un pitch qui était à la mode, et puis après, on verra bien.
Je pense que c'est l'effet pervers aussi de The Wire, qui était une série où on a beaucoup dit que il suffit d'aller attendre la saison complète, que c'était pas vraiment des épisodes, mais c'est des chapitres, et que tout se mettait en place. Et... Et donc, il doit y avoir certaines séries du câble ou certains créateurs qui se disent de toute façon, j'ai le temps, effectivement, c'est pas, je suis pas sur une série, mais je suis sur un grand film en plusieurs parties. Or, or si on est venu aux séries, je pense que c'est tous avec les mêmes, comme on en parlait au début ou pas, avec Urgence et X-Files, et, qui sont des séries qui fonctionnent sur l'épisode, sur le moment, et c'est ça le principe de, c'est ça le principe des séries, ce qu'on doit aimer dans la fiction de ce genre-là, c'est que on est récompensé pile sur le moment, enfin,
et puis on peut pas se permettre d'avoir effectivement trois épisodes chiants sous prétexte que ça va mener à un quatrième épisode qui sera génial, parce que enfin on regarde semaine par semaine, on regarde pas l'ensemble, mais et d'ailleurs, les séries qui fonctionnent bien en ce moment, c'est quand même souvent des séries dont l'épisode indépendant, tout seul, The Good Wife, si ça marche auprès de tout le monde, c'est peut-être aussi parce que si on veut sauter 4 épisodes et en regarder un tout seul, ça fonctionnera aussi. Enfin, ils ont toujours l'effort de faire quelque chose qui, sur 40 minutes, est satisfaisant. Et ensuite, effectivement, si on regarde tous les épisodes, il y a une, y a quelque chose qui s'ajoute. Mais,
Oui, c'est sûr, le mélange du feuilleton qui récompense la personne qui suit tout. Et en même temps, l'intrigue par épisode, ce mélange-là, c'est sûr que il a toujours bien marché.
Et c'est pour ça aussi que je sais pas, The Walking Dead, ça n'a pas fonctionné comme série, parce que Frank Darabont, j'ai pas l'impression qu'il ait compris ce que c'était une série. C'est-à-dire que il faut que t'as qu'un épisode, ça a un début, ça a une fin, même si c'est intégré à l'ensemble dans une histoire qui se déroule sur...
Ça a un thème en plus, normalement, un épisode. Et puis c'est vrai que The Walking Dead, on avait vraiment l'impression que effectivement le début était réussi, la fin, moi je l'ai trouvé ratée, mais on sentait qu'en tout cas il essayait de faire quelque chose qui, dans la première saison, ou même dans la deuxième saison, mais entre les deux, il se passe rien, et tu peux pas avoir un épisode de 40 minutes dans une série où il se passe rien, surtout sur une série dont la saison fait genre 10 épisodes, et c'est pas le même, enfin c'est pas comme d'avoir 30 minutes de temps mort au milieu d'un film pour reposer le spectateur, quoi. Et The Walking Dead, c'était vraiment une catastrophe, la saison 2, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'était c'est quand même assez grave de s'ennuyer devant une série de zombies. Enfin, on devrait pouvoir trouver tous les défauts du monde, mais on devrait pas s'ennuyer parce que les personnages parlent ensemble de Dieu et de foi et de choses comme ça.
Ouais, je pense qu'on n'attend pas la même chose. Moi, j'ai vu des classements là où le top 10 des meilleures séries, c'était donc Boardwalk Empire, Boss, Breaking Bad, c'est-à-dire toujours le même type de série qui est, on raconte une longue histoire, donc c'est des feuilletons,
des drames,
il y a Community quand même qui, dans ces cas-là, apparaît toujours dans ces classements-là. Et je pense qu'en fait, on n'attend pas la même chose que les gens qui font ces classements et qui aiment cette forme de série. Et, mais ça me rappelle... Au tout début d'Edusa ou de Perdusa, la première fois que j'avais rencontré, ou l'une des premières fois que j'avais discuté avec Mohamed, qui est Drum, et qui lui supportait pas les séries HBO. Et pour lui, HBO, il faisait pas des séries télé. Lui, ce qu'il aimait, c'était que les séries des networks, parce que ce qu'il aimait, c'était ça, c'était la variation sur le même thème de semaine en semaine. Et ça, il est bizarre et tout. Et je pense que c'est un précurseur, et qu'effectivement, ou en tout cas, on s'est réunis parce qu'on aime ce genre de série-là, on aime ça dans les séries télé. Le côté feuilleton à la Dumas, mais qu'on a abandonné, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est grosses machines du câble qui, mais, au final, sont en plus un peu prétentieuses.
Mais qui sont un peu écrasées par leur ambition en plus en général.
C'est ça.
Et si finalement la série HBO dont on parle le plus, c'est pas Boardwalk Empire, mais c'est True Blood, qui pourtant n'est pas réussi, c'est peut-être aussi parce que c'est une série qui a des moyens et beaucoup de... Enfin, un vrai budget, des vrais moyens, et qui en même temps se permet de temps en temps d'être une série, et c'est pas spécialement réussi, mais qui est pas complètement écrasée par une ambition d'être absolument un chef-d'œuvre en permanence, de toujours raconter des choses très profondes, et qui se permet aussi simplement d'être divertissante, en fait.
Ça donne vraiment l'impression... C'est comme tout le monde qui râle sur qui est nominé aux Oscars, quel film est nominé, quel film va remporter le prix. Alors qu'on sait tous qu'on a préféré le petit truc populaire à côté qui finalement n'est pas nominé. Parce que voilà, c'est toujours bien de mettre dans des listes, dans les tops, tout ce qui a l'air beau.
On peut revenir sur l'intérêt même des récompenses, des listes et tout ça. Enfin, moi, ça m'éclate de faire des listes.
Non, mais c'est juste la comparaison. Tout le monde s'étonne que... les gens s'attendaient à autre chose sur notre top 10.
Ouais, mais c'est vrai que là, sur ce top 10, on a noté vraiment sur le plaisir qu'on avait semaine par semaine à regarder une série. Et peut-être pas... On n'a pas forcément essayé d'évaluer... la qualité visuelle, la qualité du jeu de chaque acteur, on a fait l'ensemble. Est-ce que finalement j'ai trois séries à regarder, laquelle je regarde en premier? Et ben moi effectivement c'est plutôt The Good Wife et Vampire Diaries que je vais regarder avant d'autres séries que j'apprécie aussi. Mais
j'ai pas l'impression que ce soit des solutions de facilité ou qu'on ait des attentes moins grandes que d'autres. Moi ça me plaît énormément les séries ambitieuses, Les Sopranos et The Wire, enfin je tiens ça pour des chefs-d'œuvre et c'est vraiment des choses que j'ai adoré regarder, mais il n'y a pas.
Mais c'est les séries qui t'ont toujours diverti, tu t'es jamais
ennuyé. Ah oui, et je me suis jamais ennuyé dessus. Et j'ai...
Sous prétexte que c'était bien.
Alors il y a quand même. T'as toujours un truc genre, ah là là, il faut que je sois dans les bonnes conditions pour regarder parce que c'est vraiment une super série. Donc, mais non, moi mon souci c'est que les séries dont on parle du câble ont l'ambition d'être à la hauteur. De ces aînés-là, et elles sont beaucoup plus mauvaises, elles sont ratées. C'est juste le souci que j'ai. Et et je pense que Vampire Diaries ou The Good Wife sont des séries qui utilisent à fond la forme que la forme de
et qui la maîtrise
la série télé et que non pas c'est pas juste parce que qu'on attend moins de choses ou quand nous on est juste ouais moi quand je joue au ciné c'est pour me divertir pas pour réfléchir. Je pense que c'est juste parce que
non mais c'est des séries qui maîtrisent vraiment ce qu'elles font et c'est vrai qu'il y a beaucoup je trouve c'est aussi peut-être parce que maintenant la mode sur le câble c'est de prendre quelqu'un qui a pas forcément qui vient pas forcément de l'univers des séries tout à fait comme Franck Darabont et de lui filer une série à faire parce que soi-disant les gens qui font des séries seraient pas assez bien pour faire des séries sur le câble mais c'est. Et finalement, il y a aussi une... Enfin, c'est pas du tout évident et c'est pas du tout la même chose que de faire du cinéma ou autre chose.
Depuis qu'il y a eu la reconnaissance de la forme série télé, ou désormais, où ça va aux États-Unis en tout cas, même si le cinéma est toujours l'art audiovisuel numéro 1 par excellence. Donc le fait qu'il y ait de plus en plus de gens du cinéma qui viennent. Aux séries télé, ça les a pas servis parce que
c'est des gens qui je pense au fond parfois méprisent un petit peu ce média ou en tout cas le comprennent
le
pas complètement,
le comprennent pas assez
et ont pas forcément conscience de ses contraintes et de comment on fait au mieux avec ces contraintes là et qu'on peut pas forcément se permettre effectivement de complètement laisser tomber la continuité entre deux épisodes ou le concept d'avoir du rythme au milieu de l'épisode puis à la fin.
Donc voilà, c'était l'état de nos réflexions sur l'état des séries télé. Peut-être qu'on dira exactement le contraire la semaine prochaine. En tout cas, d'ici là, profitez de la vie. Voilà. Et puis, des séries télé, de PA Dusa.
En espérant que 2012 sera meilleur, télévisuellement.
Oui.
Tout à fait.
Voilà. Parfait. Et à bientôt.
À bientôt.